C'est une étude de la Fondation Jean Jaurès qui le dit. Jeune des villes, jeune des champs, la lutte des classes n'est pas finie. Alors pour parler de cette fracture territoriale entre jeunes urbains et jeunes ruraux, j'accueille Jérémy Pelletier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des études de la Fondation Jean Jaurès, Fondation Jean Jaurès qui a réalisé cette étude avec l'association Chemin d'Avenir et l'IFOP. Jérémy Pelletier, avant d'entrer dans le détail de l'étude, peut-être précisez-nous d'où vous parlez, la Fondation Jean Jaurès en un mot, quel est son objet ?
Alors en un mot, c'est une fondation reconnue d'utilité publique, c'est une fondation politique qui a vocation à alimenter le débat public tout au long de l'année, à travers un certain nombre de publications, d'événements et à travers un certain nombre de travaux tels qu'on l'a fait sur les jeunes. Là, c'est s'agissant de la Fondation Jean Jaurès, et puis on l'a fait du coup avec une association qui s'appelle Chemin d'Avenir, qui elle agit directement auprès des territoires et auprès des jeunes, notamment en faisant du mentorat et du mécénat de compétences, et je pense qu'on en parlera ensemble.
Eh bien, très bien, parce que ce débat public, effectivement, vous l'alimentez avec cette étude, Jeunes des villes, jeunes des champs, la lutte des classes n'est pas finie. Vous mettez en avant dans cette étude, on va y entrer, hein, la fracture territoriale. Comment est-ce que vous avez eu l'idée et qu'est-ce qui a présidé à cette étude, Jérémy Pelletier ?
Alors, il y avait deux choses. D'une part, ça fait longtemps que la Fondation travaille sur ces questions, sur la question des fractures territoriales, la question des villes moyennes, la question des petites villes, car ça nous semble un élément important de la cohésion nationale. Et par ailleurs, le deuxième objectif, le deuxième intérêt, c'était qu'évidemment, à quelques mois des élections municipales,
bah oui,
on considérait que la lumière était beaucoup mise sur les grandes villes, sur les grandes métropoles, car vous savez très bien que la victoire ou la défaite des gros partis politiques va être perçue d'abord et avant tout en fonction de leur score dans les grandes métropoles et dans les grandes villes. Or, on pense qu'il y a un élément qui est beaucoup plus important pour la cohésion nationale et pour peut-être l'avenir du pays.
Le fameux vivre ensemble.
Absolument, c'est ce qui va se passer dans les petites villes, dans les villes moyennes, dans les territoires qui potentiellement d'ailleurs se sont levés et étaient présents sur les ronds-points lors de la crise des Gilets jaunes.
Alors justement, vous en parlez des Gilets jaunes, ce sont les enfants des Gilets jaunes que vous êtes allés rencontrer ?
C'est plus compliqué que ça. Par ailleurs, on sait très bien que les jeunes n'étaient pas présents sur les ronds-points, à la fois les jeunes des grandes métropoles, mais aussi les jeunes de la France rurale. Donc, c'est plus compliqué que ça de dire que ce sont les jeunes enfants des Gilets jaunes. La vérité, c'est que par contre, ils partagent un certain nombre d'obstacles et sans doute de revendications et de réalités qui étaient propres aussi aux personnes qui ont manifesté sur les ronds-points.
Alors on va entrer dans le détail de cette étude. Un mot tout de même, vous n'êtes pas tellement surpris par les résultats de l'étude. On est d'accord, c'est des résultats relativement attendus. Non, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu être autrement ?
Non, on n'est pas surpris. Nous, l'idée, c'était de mettre en lumière justement un cumul d'obstacles, et c'est-à-dire qu'on sait très bien et on connaît les fractures sociales et les inégalités sociales, notamment au sein de la jeune génération, et nous, ça nous semblait important de montrer à quel point, si vous rajoutez par-dessus une couche d'inégalité territoriale, vous arrivez à un socle d'inégalité qui peut être assez important. Après, on était quand même surpris sur un élément, et je crois que c'est l'un des éléments intéressants de cette enquête, c'était en gros le nouvel enjeu de la compétition entre les jeunes générations. Et en fait, ce nouvel enjeu, il se trouve sur les questions de la mobilité, il se trouve sur les questions du rapport à l'international. Et là, on observe des écarts entre les jeunes de la zone rurale et les jeunes des grandes métropoles qui sont assez importants et qu'on n'imaginait pas ou peu. Et donc, les fractures liées à la mobilité, qui est évidemment aussi un sujet qui était au cœur de la crise des Gilets jaunes, pour le coup, l'écart entre les jeunes de la France rurale et les jeunes des grandes métropoles nous a quand même surpris, parce que c'est ça qui devient le clivage structurant entre les jeunes d'une même génération.
C'est ça. Vous faites allusion notamment à ces chiffres. 33% des 17-23 ans déclarent être encouragés à aller étudier à l'étranger par leur famille. 27 seulement pour les jeunes des territoires ruraux, contre 41 en agglomération parisienne. Quelles sont ces fameuses inégalités, les plus frappantes, les autres que vous avez mis au jour dans cette enquête qui, je rappelle, s'est faite suite à l'audition d'un panel de jeunes de 17 à 23 ans?
Absolument. Donc il y a celle-ci, il y a le rapport à l'international, le rapport à la mobilité. Vous l'avez dit, 27% des jeunes des territoires ruraux qui disent être encouragés à aller étudier à l'étranger par leur famille. On est à 41% des jeunes en agglomération parisienne. Je vous en donne un deuxième. On est à 34% des 17-23 des zones rurales qui disent envisager la possibilité de travailler à l'étranger. Dans l'avenir, dans le cadre de leur activité professionnelle, 34% en zone rurale, on est à plus de 50%, 52% en agglomération parisienne. Et l'autre élément qui est très important, c'est sur leur rapport à l'anglais, c'est sur la maîtrise de l'anglais. On est à 21% des jeunes ruraux qui disent avoir suivi au cours de leur vie des cours supplémentaires ou de soutien en langue financés par leurs parents. 21% des jeunes ruraux. Il y a un écart de 20 points avec les jeunes d'agglomération parisienne, 42% des jeunes qui vivent en agglomération parisienne qui disent avoir déjà bénéficié de cours de soutien ou de langue.
Et vous avez ce mot fort, hein, pour vous, c'est le nouvel enjeu de la compétition entre les jeunes. Il y en a d'autres, il y a également face à l'orientation qu'ils sont inégaux, notamment à travers le réseau, hein.
Absolument. Je crois que l'un des éléments très importants de l'enquête, c'est aussi de montrer que quand on arrive dans une situation et dans un moment où une grande majorité d'une classe d'âge, plus de 80% a le bac, quand on a une grande majorité d'une classe d'âge qui fait finalement des études longues, le terrain de la compétition et le terrain d'affrontement finalement ne se fait plus évidemment uniquement sur les études, même si évidemment c'est beaucoup mieux d'avoir fait de longues études quand on arrive sur le marché de l'emploi, mais la compétition, elle se fait sur d'autres aspects beaucoup plus injustes, beaucoup plus inégaux, qui ne correspondent pas à ce qu'on appelle la méritocratie républicaine. Mmh. Et en gros, effectivement, c'est le réseau, c'est le carnet d'adresse. Et donc, un élément intéressant de l'enquête, c'est quand on demande aux jeunes, selon eux, les critères les plus importants pour réussir leur avenir professionnel, finalement, le fait de faire des études longues, le fait de faire des bonnes études arrive assez bas, selon eux. Ça arrive en troisième position. Les deux éléments les plus déterminants selon eux pour réussir leur avenir professionnel, ces deux éléments qui sont liés, c'est la qualité du carnet d'adresse, le réseau de connaissances et le fait d'avoir de bons stages. Et évidemment, il n'y a rien de plus injuste que des inégalités liées au carnet d'adresse et au réseau de connaissances. Or, on sait très bien que c'est clé et que c'est déterminant pour réussir.
Et ça, les jeunes en territoire ruraux n'ont pas de carnet d'adresse ?
Ils en ont moins. Ils ont moins de rôle modèle. On a interrogé les jeunes sur est-ce que vous avez des rôles modèles qui vous permettent aujourd'hui d'aspirer ou d'ouvrir le champ des possibles par rapport à ce que vous allez faire dans l'avenir. Est-ce que vous avez des rôles modèles qui sont inspirants, qui vous permettent aussi de bénéficier de conseils sur ce que vous allez pouvoir faire dans l'avenir. Et là, on a 20 points d'écart entre les jeunes de la France rurale et les jeunes de la grande métropole, deux grandes métropoles, s'agissant de la présence ou non de rôle modèle. Et ce qui est certain, c'est que il y a moins aujourd'hui dans cette France rurale, dans cette France des territoires qu'on peut qualifier des territoires périphériques, de personnes revendiquant leur appartenance, je dirais, à ces territoires-là, qui ont réussi et qui viennent ensuite faire bénéficier de leur parcours et de leur réussite auprès des jeunes de ces territoires.
Donc ce qu'on comprend dans ce que vous dites, hein, c'est que finalement un déterminisme social s'ajoute une forme de déterminisme géographique. Jérémy Pelletier, je rappelle à ceux qui nous rejoignent, hein, que vous êtes de la Fondation Jean Jaurès, où vous êtes directeur des études. On parle de l'étude Jeunes des villes, Jeunes des champs, la lutte des classes n'est pas finie. Ces inégalités, Jérémy Pelletier, est-ce qu'elles sont aussi le reflet d'un niveau scolaire moins bon à la campagne qu'à la ville?
Alors non,
c'est pas ça.
On sait très bien que le niveau scolaire et les résultats scolaires influent peu entre les territoires aujourd'hui, si on prend uniquement la différence entre les territoires ruraux et les grandes métropoles. Donc évidemment c'est pas ça. Ce qui est certain, c'est que par contre il y a ce qu'on appelle une certaine autocensure et une représentation assez négative des jeunes de la France rurale par rapport aux jeunes des grandes métropoles sur leurs propres études. En gros, dans l'enquête, on leur a demandé...
C'est assez terrible, en fait. Hein.
Si, absolument, mais c'est ce qu'on appelle l'autocensure. Et on leur a demandé dans cette enquête s'ils considéraient les jeunes être en train de faire des études ambitieuses, s'ils considéraient qu'ils faisaient des études ambitieuses. Et pareil, on est à 20 points d'écart entre les jeunes de la France rurale et les jeunes des grandes métropoles, s'agissant de la qualification d'ambitieuse par rapport aux études, par rapport aux études qu'ils effectuent. Ce qui est très important, parce que ça donne une image aussi et ça donne une idée de comment ils se représentent aussi leur territoire, comment ils se représentent la qualité de leurs études. Et donc, ça va entraîner des phénomènes dont on peut parler, dont on peut parler d'autocensure, c'est-à-dire qu'une partie de ces jeunes-là vont se dire mais finalement les études là potentiellement
c'est
que
pas
je peux
pour
faire
moi.
Demain c'est pas pour moi, ce poste-là, ces emplois-là, ce ne sont pas pour moi, cette ville dans laquelle je pourrais potentiellement faire des études demain, elle n'est pas faite pour moi.
Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez observé des diversités au sein des territoires ruraux selon qu'on est plutôt en montagne, plutôt au bord de la mer, plutôt dans une ville de... Est-ce que ça, vous êtes rentré dans une analyse plus fine?
Alors, on pourrait, malheureusement, quand on est sur un panel de 1000 jeunes, ce n'est pas assez représentatif ensuite pour rentrer sur ce point de détail.
Alors, votre enquête, sur la fin, elle se fait assez menaçante. Hein. Vous écrivez « Sentant ce clivage, les jeunes assignés à résidence ne peuvent qu'en nourrir un profond malaise et un profond ressentiment, un malaise qui produit des effets corrosifs dans le temps et peut mener à l'explosion. » Qu'est-ce que vous voulez dire, Jérémy Pelletier?
En gros, ce qu'on a montré dans l'enquête, c'est que le risque de ne pas traiter cette question-là, c'était renforcer le nouveau clivage structurant, je pense, dans la société française et qui va structurer la vie politique pour plusieurs années. C'est le clivage entre, finalement, ceux qui sont partout, ceux qui bénéficient
et part,
de la mobilité
ceux qui
sont quelque part.
Quelque part,
ceux qui sont assignés à résidence, ceux qui sont assignés à un territoire. Et donc, ce clivage entre les partout et les quelque part, finalement, s'il ne cesse de se renforcer, va entraîner et peut entraîner un certain ressentiment de la part de celles et ceux qui ne bénéficient pas finalement de la société du bougisme qui est défendu en permanence dans notre société, qui ne bénéficient pas finalement de cette mode du fait d'être entrepreneur de sa propre vie, et ce qui est très défendu et ce qui est très bien. Par ailleurs, j'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça.
Alors on aurait pu penser que le numérique réduise cette fracture. Apparemment, c'est pas le cas. On va pas en rester sur ce constat négatif. Est-ce que vous avez des pistes de solutions? Parce qu'une fois qu'on fait cet état des lieux assez déplorable, on fait quoi, Jérémy Pelletier?
Il y a plusieurs choses. Effectivement, la question du réseau de connaissances et du carnet d'adresses, ça me semble être d'abord et avant tout l'une des principales propositions qu'il faut faire, l'un des principaux postes d'investissement qu'il faut avoir. Ce qui est certain, c'est que ça ne peut pas que passer par l'éducation nationale et par les réseaux de l'éducation nationale. Donc, c'est des écosystèmes à mettre en place entre les entreprises, les chefs d'entreprise, entre les gens aussi qui sont issus de ces territoires-là et qui viennent ensuite faire bénéficier de leur parcours et de leur expérience auprès de ces jeunes-là. Je pense qu'il y a un vrai enjeu lié à la mobilité aussi. Ouais. Et par exemple, moi, je suis assez favorable au fait de proposer la mise en place du permis de conduire dès 16 ans, parce que je pense que ce qui est très important dans les territoires ruraux,
rendre les jeunes autonomes,
évidemment, c'est de rendre les jeunes autonomes le plus tôt possible et de leur faire avoir un certain nombre d'expériences de la mobilité le plus tôt possible. Je suis assez favorable aussi au fait d'amener, par exemple, en introduction du service national universel, l'obligation, par exemple, d'une dizaine de voyages chez les jeunes d'une même génération, même chose, pour leur donner cette expérience de la mobilité. Mmh. Et un dernier élément, peut-être, c'est lié beaucoup plus fortement et de façon beaucoup plus officielle qu'on ne le fait aujourd'hui, tant de travail tant d'études. Partant du principe que les jeunes aujourd'hui ont leur premier emploi stable, leur premier CDI à partir de 30 ans, ce qui est très tard, leur premier enfant d'ailleurs également à partir de 30 ans, je crois que c'est très important de leur faire bénéficier d'expériences professionnelles qui s'insèrent dans le cadre de leurs études de façon beaucoup plus pérenne.
Merci.
Ils bénéficient aussi d'un réseau de connaissances, etc., etc.
Merci infiniment, Jérémy Pelletier. Je rappelle que vous êtes le directeur des études de la Fondation Jean Jaurès qui a réalisé cette étude. Donc, Jeunes des villes, Jeunes des champs, la lutte des classes n'est pas finie, on l'a bien compris. L'étude très intéressante, très éclairante, est à retrouver sur le site internet de la Fondation Jean Jaurès. Merci à vous.
Merci beaucoup.